l'écoute de Radio France Internationale. Il est 18h à Paris, midi à Washington.
Le journal en français facile. Fanny Blechner.
Une nouvelle édition du journal en français facile présentée aujourd'hui avec Emmanuel Klotz. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 mars 2023.
Et au sommaire,
le président américain Donald Trump bientôt devant la justice pénale, c'est une première aux États-Unis. En France, Sophie Binet est la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Élue à la tête du syndicat, elle promet de poursuivre le combat contre la réforme des retraites, vous l'entendrez. Et puis, nous vous donnons rendez-vous à la fin de cette édition pour le journal de l'environnement. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
C'est une première pour un ancien président américain. Donald Trump est poursuivi au pénal.
Il est accusé dans une affaire qui date de 2016, car il aurait versé 130 000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels pour qu'elle taise leur liaison. Guillaume Naudin, vous êtes notre envoyé spécial permanent à Washington. Guillaume, que peut-on attendre maintenant ?
Alors, il va d'abord y avoir la mise en accusation formelle. Il est pour l'instant prévu que cela se passe mardi à New York. Donald Trump saura de quoi il est accusé exactement. Pour l'instant, c'est sous scellé, c'est secret, on ne le sait pas encore précisément. Il y aura au moins une prise d'empreinte digitale et des photos de face et de profil, comme tous les criminels. Y aura-t-il cette tradition new-yorkaise de montrer publiquement l'accusé menotté au poignet? Ce n'est pas forcément sûr, pas forcément obligatoire, surtout s'il ne va pas en prison. Pour n'importe quel homme politique, ce serait une image catastrophique, mais cela peut aussi servir la stratégie politique de Donald Trump de se présenter comme une victime.
Oui, parce qu'il est candidat à sa réélection en 2024. Cette décision ne l'en empêche absolument pas. Alors, quelles conséquences pour la campagne électorale, Guillaume ?
Alors là, on ne sait pas. On entre carrément en territoire inconnu. C'est difficile de mesurer la réaction de l'opinion, des partisans de Donald Trump et des autres. Depuis le début, l'ancien président a choisi de dénoncer une justice aux ordres du pouvoir politique. C'est d'ailleurs en partie pour cela que la Maison-Blanche garde le silence au nom du principe d'indépendance de la justice. Joe Biden, qui prépare sa propre entrée en campagne, ne veut pas donner raison à Donald Trump. Et puis, tout cela n'a pas trop mal réussi à l'ancien président jusque-là. Quand il a annoncé à tort son inculpation pour le mardi de la semaine dernière, ça a fait beaucoup de bruit. Cela lui a rapporté 2 millions de dollars de dons par ses partisans. On peut se demander combien tout cela va lui rapporter cette fois-ci. Et il est tout de même à noter que depuis l'annonce d'hier soir, il n'a pas répété son appel à manifester, ni recommencé à faire planer la menace de violence. Ça aussi, c'est l'inconnu pour ses prochains jours.
Guillaume Naudin, notre envoyé spécial permanent en direct de Washington.
En France, en pleine crise sociale, un nouveau visage à la tête d'un important syndicat.
La CGT, Sophie Binet succède à Philippe Martinez comme secrétaire générale. C'est la première femme élue à ce poste du syndicat. Elle est notamment engagée sur les questions environnementales et l'égalité entre les hommes et les femmes. Je vous propose d'écouter ses premiers mots à l'issue du congrès, la réunion de la CGT.
Notre congrès, il a été très difficile. Il a été violent parfois. Je pense que c'est important de se dire, de se redire que cette violence, elle n'est pas normale, elle n'a pas sa place dans les rapports militants et qu'il faut qu'on travaille pour la faire disparaître. Alors notre congrès, il a pris la responsabilité pour dépasser les clivages et sortir avec une CGT unie et rassemblée. Notre congrès, il a permis d'adopter un document d'orientation ambitieux. Notre congrès, il a permis de se rassembler autour d'une équipe de direction en capacité d'impulser une confédéralisation portée par le croisement des organisations professionnelles et territoriales. Maintenant, les camarades, je crois que notre congrès, c'est d'abord un message fort, déterminé, au gouvernement, au patronat et à Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien, à commencer par notre exigence de retrait de cette réforme des retraites. Il n'y aura pas de trêve. Il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation. On gagne le retrait de la réforme des retraites.
Sophie Binet qui a également annoncé que l'intersyndicale unie rencontrera la première ministre Elisabeth Borne le 5 avril à l'invitation du gouvernement pour exiger le retrait de la réforme des retraites.
Et toujours dans le cadre de cette mobilisation, on apprend justement qu'une centaine de plaintes ont été déposées à Paris aujourd'hui.
Pour dénoncer des arrestations et des détentions arbitraires, sans motif, sans justification donc. Mercredi prochain, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur sera entendu à l'Assemblée nationale sur la gestion du maintien de l'ordre et au Sénat sur les violents affrontements de samedi dernier à Sainte-Soline.
Nous vous en parlions cette semaine, leur venue était attendue. Ça y est, les soldats ougandais de la force régionale est-africaine ont commencé à arriver dans l'est de la République démocratique du Congo.
À Bunagana, il y a 9 mois, cette ville avait été la première à passer aux mains des rebelles du M23. Il est question d'un millier de soldats. À terme, ils seront 2000. Le 30 mars dernier aurait dû marquer la fin du retrait de tous les groupes armés de l'est de la RDC. Ce retrait n'est toujours pas effectif.
Ils jurent de vaincre le mal russe. Ces mots, ce sont ceux du président ukrainien.
Volodymyr Zelensky, qui célébrait aujourd'hui le premier anniversaire du retrait russe de Boutcha, ville martyre qui est devenue un symbole des atrocités imputées aux troupes de Moscou. Dans le cadre de cette guerre, le haut commissaire des droits de l'homme, Volker Türk, a dénoncé de graves violations des droits humains devenues, je cite, scandaleusement routinières, communes donc depuis l'invasion de l'Ukraine. À l'écoute d'RFI, il est 18h06 à Paris, 2 heures de moins en temps universel, l'heure de votre journal de l'environnement. Bonjour Claire Broders.
Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous.
On commence ce journal avec une projection du rapport sur la mobilité climatique en Afrique qui nous alerte sur le nombre de déplacements de population sur le continent liés au changement climatique.
Cette semaine, le Global Center for Climate Mobility a rendu son bilan. Le continent est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique, montée des eaux, érosion des côtes, chaleurs extrêmes, épisodes de sécheresse, ce qui pousse déjà les populations à se déplacer. Les situations sont très diverses selon les régions du continent, mais Sarah Rosengartner, conseillère principale du centre, nous dresse un bilan général.
Malgré ce constat actuel que la plupart des Africains ne veulent pas se déplacer, nos projections pour le futur indiquent qu'on va voir une augmentation des déplacements due aux perturbations climatiques et ça pourrait toucher jusqu'à 113 millions de personnes. Cela représente jusqu'à 5% de la population africaine en 2050 contre 1,5% de la population qui se déplace aujourd'hui à cause des facteurs climatiques. En fait, plus de 90% des personnes se déplaceront au sein de leur propre pays.
C'était Sarah Rosengartner, conseillère principale du Global Center for Climate Mobility.
De l'autre côté de l'océan Indien, à présent, le Bangladesh interdit les plastiques à usage unique dans la majeure partie des Sundarbans.
Cette mangrove, la plus vaste au monde, abrite des animaux rares comme les tigres du Bengale et les dauphins de l'Irrawaddy. Mais bouteilles, assiettes jetables et autres plastiques ont endommagé ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et très visité. Cette interdiction sur 6500 km² de mangrove est saluée par les défenseurs de l'environnement car, petit rappel, les mangroves protègent les côtes de l'érosion et contribuent à lutter contre le changement climatique en capturant des millions de tonnes de CO2.
Les animaux nous rendent service, même les fourmis. Des chercheurs sont parvenus à recenser les virus circulant dans une forêt du Gabon en les utilisant.
Le réchauffement climatique, la déforestation amplifient le risque de zoonose, des maladies qui passent de l'animal à l'humain, comme le Covid, par exemple, puisque certains animaux se retrouvent de plus en plus en contact avec l'homme. Et dans une forêt gabonaise, ils ont analysé les fourmis légionnaires qui transportent les virus des animaux. Dans cette étude, ils ont ainsi recensé 157 genres viraux différents.
Et ça me rappelle l'importance de la présence de certains animaux pour la santé des écosystèmes.
tout à fait. Les loutres de mer, par exemple, ont régulé le nombre d'oursins et ainsi permis le développement des forêts de kelp, des algues géantes qui absorbent le carbone et attirent des espèces marines telles que les morues, les saumons, les harengs. Donc, non seulement la pêche est meilleure, mais le bilan carbone s'en voit également diminuer.
Merci Cléa Broders, merci également à Emmanuel Klotz de m'avoir accompagné. Cette édition est à retrouver à tout moment en version écrite et en version audio sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.